France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
3 ans depuis l'élection de Giorgia Meloni, la voilà qualifiée de femme forte de l'Europe. On va se demander avec nos invités dans un instant si en effet la présidente du Conseil italien est en train de réussir son coup. L'actualité française évidemment ce soir dépasse largement nos frontières. Comment réagit-on autour de nous et même bien au-delà à la condamnation de Nicolas Sarkozy? Ce sera le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Le reportage est en Inde, pays exportateur de textiles, un pan très lourd de son économie qui prend de plein fouet les droits de douane à 50% infligé par Donald Trump.
Je ne sais pas ce qui se passe avec les États-Unis, mais le travail ralentit pour nous tous, avec des semaines plus courtes et nos salaires diminuent aussi. Donc on est tous inquiets.
Un reportage signé Combastin que vous découvrirez vers 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé une histoire de softball au Canada. Et puis dans la tech, la première, Stéphane Jourdain nous annonce la fin de la civilisation. C'est bientôt, c'est pour le 30 septembre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Allons-y.
Nous sommes prêtes, partout dans le monde, à assumer la responsabilité gouvernementale. Pour atteindre ces objectifs, nous devons poursuivre nos combats culturels.
C'est Giorgia Meloni, bien sûr, qui parle, invitée très récemment à un événement organisé par Marion Maréchal. Et on va revenir sur cette phrase, nous sommes partout dans le monde prêts à assumer la responsabilité gouvernementale. On reviendra aussi sur ce qu'elle parle, ce qu'elle dit s'agissant de la culture. Bonsoir Jean-Pierre Darnis.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Vous êtes professeur en études italiennes à l'Université Côte d'Azur à Nice, en histoire contemporaine aussi à l'US à Rome. Et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. À vos côtés, il y a Bruno Duvic, que je salue aussi. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Rome, merci beaucoup à tous les deux. Je disais donc 3 ans d'élection de Giorgia Meloni, qualifiée de femme forte de l'Europe, incarnant même une stabilité à la fois économique et politique. On va parler de sa politique migratoire, on va parler du conservatisme à l'italienne aussi. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle un peu d'économie. Bruno, c'est vers vous que je me tourne. Est-ce qu'on peut le dire aussi clairement? Oui, l'Italie va bien au moment où on se parle. Est-ce que ce qu'on regarde, c'est un redressement spectaculaire ou une conjoncture spectaculairement favorable?
C'est un redressement spectaculaire et une conjoncture favorable. Déficit passé de 7,2 à 3%, c'est spectaculaire. 1 million d'emplois en plus depuis 2023, c'est spectaculaire. Alors ce qui lui est dû, la stabilité politique, c'est toujours bon pour l'économie. Une gestion prudente des deniers publics, la suppression de 2 mesures des gouvernements précédents avant Draghi, qui coûtaient très cher, le revenu de citoyenneté, un bonus à la rénovation des logements, c'était en tout plus de 150 milliards pour les deux. Mais pour les finances en particulier, l'effet conjoncturel et massif, refrise et inflation post-Covid qu'ont facilité les rentrées fiscales. Et puis pour l'emploi, c'est une statistique en partie en trompe-l'œil, parce qu'une bonne partie des nouveaux emplois, entre guillemets, mais sont dus à des gens qui ne sont pas partis à la retraite parce que les conditions se durcissent.
Jean-Pierre Darnis, j'entends ce que dit Bruno, et donc on peut se demander effectivement vers quoi on pointe, si on a envie de se poser la question, qu'est-ce qu'elle a fait ces 3 dernières années, Giorgia Meloni, ou est-ce que justement son habileté politique, c'est de n'avoir pas fait grand-chose, si ce n'est se façonner, c'est déjà pas mal d'ailleurs, une image politique qui a pu d'ailleurs désarçonner ses adversaires?
Certainement, l'image est centrale. Elle travaille sur cette question de l'image, elle la met en avant. Elle est une femme qui accède au pouvoir, la première chef du gouvernement italien. C'est une question très moderne dans l'Italie d'aujourd'hui. Et puis, dans ce qu'elle a fait, elle est vraiment restée dans la gestion classique des institutions, en ne sortant pas d'un sillon institutionnel défini par ses prédécesseurs. Et ça, c'est peut-être assez remarquable, parce que les gens qui ne la connaissaient pas ne soupçonnaient pas cette rigueur, on va dire.
Mais ça veut dire que, Bruno, on l'a sous-estimé, cette femme, quand elle est arrivée, en fait?
Ah, c'est possible. Un mot sur sa personnalité et son image. Elle, dans les sondages de popularité, cela repose sur sa personnalité plus que sur sa politique. Le succès d'image de Giorgia Meloni, le côté girl next door, sympa. Elle est sympathique. C'est un trait de personnalité qui ressort toujours. Est-ce qu'on l'a sous-estimée? Elle était méconnue, voire inconnue en France quand elle est arrivée. Il y a l'habitude de gouverner ensemble, des 3 partis de droite, extrême droite. C'est en place depuis des années. C'est une pro de la politique. Elle est députée depuis des années. années. Elle était ministre en 2008. Elle avait à peine plus de 30 ans. Elle a toujours fait de la politique. Et ce qu'on a sous-estimé, je crois, c'est une forme de détermination. On le sait, sa jeunesse politique, c'est dans le mouvement de jeunesse du parti issu du post-fascisme. Elle a grandi dans une ambiance où ils étaient mis de côté, ces militants-là. Ils étaient pointés du doigt. Et il y a une détermination à montrer qu'elle est capable de gouverner et de durer à la tête du gouvernement.
Alors, de gouverner, de durer, Jean-Pierre Darnis, et puis de faire preuve d'un vrai pragmatisme. Il y a eu des choses qui ont été très claires sur l'Europe très vite. On se souvient que sa première visite a été pour Bruxelles. Ursula von der Leyen n'en dit pas de mal. Elle ne s'est pas rangée derrière les pro-russes. Au contraire, elle est très pro-ukrainienne, Giorgia Meloni. Elle a ménagé sa relation avec Donald Trump sans jamais contredire les intérêts européens. C'est tactiquement assez impressionnant. Il faut le dire, on n'est pas en Hongrie, on n'est pas en Slovaquie, en Italie. On est d'accord avec ça ?
On est absolument d'accord sur cette analyse. Elle est dans la continuité de ce qu'on appelle en Italie une politique étrangère bipartisane, c'est-à-dire gauche-droite avec cet atlantisme et cet européisme de base, mais cette très grande fidélité aux institutions européennes. Et de ce côté-là, Bruno Duvic l'a déjà dit, mais elle reprend le sceptre de la leadership de Berlusconi. C'est-à-dire que Giorgia Meloni n'est pas une nouveauté. Elle a réussi par une manœuvre politique et des jeux d'électorat à recréer la coalition, à rendre en vie à nouveau la coalition que Berlusconi avait créée en 94. Ce qui veut dire aussi que la formule politique de ces trois partis qui gouvernent actuellement en Italie est déjà connue, mais aussi qu'ils avaient une culture de la politique étrangère, qui était là depuis 1994, et qui est une culture de continuité, donc ce n'est pas une surprise.
Il y a peut-être que sur Gaza, non, Jean-Pierre Darnis, que elle est plus ennuyée, en tout cas un peu entre deux eaux, parce qu'à la fois très alignée sur les États-Unis et en même temps, on l'a bien vu très récemment, poussée par sa population sur la reconnaissance de l'État palestinien.
Oui, absolument. Alors là, il y a un marqueur politique interne. Elle essaie, à mon avis, c'est pas une très bonne opération, mais elle essaie d'avoir une position ouverte à l'égard des États-Unis. L'Italie a toujours été pro-arabe. Elle reconnaît l'État d'Israël, bien sûr, mais elle a toujours une ligne très forte pro-arabe. Et là, pour elle, c'est pas facile parce qu'en fait, elle voudrait apparaître comme très fidèle ou ne se départissant pas, de la fidélité à Trump. Elle veut pas le contredire. Et en même temps, il y a une politisation sur Gaza. Mais il y a eu aujourd'hui une décision politique assez remarquable. C'est-à-dire que le ministre de la Défense, et bien sûr en accord avec elle, a pris la décision d'envoyer une frégate dans les eaux internationales vers Gaza pour protéger la flottille des activistes pro-palestiniens. C'est-à-dire que la marine militaire italienne, sur ordre du gouvernement italien, protège les pro-palestiniens qui manifestent et qui veulent amener des vivres à Gaza en ce moment. C'est un paradoxe, mais ça révèle, disons, la complexité de la position italienne.
Est-ce que ça veut dire, pour ce que vous venez de nous dire, Jean-Pierre Darnis, mais aussi Darnis, qu'on a expliqué sur sa position européenne, qui est réellement au milieu, qui fait attention à ne pas trop aller dans un sens hongrois ou slovaque, il y a aussi ce que vous nous expliquez sur cette coalition, effectivement, qui va du centre-droit jusqu'à l'extrême-droite et qui fonctionne. Je reviens à cette phrase, quand même, qu'on a entendue tout à l'heure dans sa bouche, nous sommes partout dans le monde prêts à assumer la responsabilité gouvernementale. Je ne sais pas lequel des deux veut reprendre à ça. Est-ce qu'elle est en train d'inventer une forme de conservatisme, Giorgia Meloni, dont ont envie de s'inspirer aujourd'hui les extrêmes droites, à commencer peut-être par la nôtre ?
Alors, sur les valeurs, moi je vous renvoie à la phrase « Je suis Giorgia, je suis une femme, une mère, une chrétienne ». Cette phrase reste très présente en toile de fond. Elle est importante pour le cœur de son électorat. C'est un mélange de vieux conservatisme, surtout en Italie où paysage au moins famille et église reste importante, mais remixé à la sauce MAGA, à la sauce Trump, pour un électorat, le cœur de l'électorat qui a l'impression d'être dans un combat culturel contre le wokisme, l'immigration, un monde qui change trop vite. J'étais récemment à un meeting de Meloni, j'étais entre un garçon qui avait une casquette rouge estampillée Trump et une petite dame qui me disait, moi ce que j'aime chez Meloni, c'est ses valeurs, famille, patrie, honnêteté, et tout ça s'est incarné par une femme hyperactive, Giorgia Meloni, qui vit séparée du père de sa fille et qui pourrait être votre voisine de palier romaine. Voilà comment elle a remixé le conservatisme.
Mais est-ce que ça veut dire, vous parlez du combat culturel, Bruno, typiquement en politique intérieure, pour tout ce qui est sociétal, elle a montré quoi ces trois dernières années, Giorgia Meloni ?
Alors, Giorgia Meloni en politique intérieure, d'abord, c'est peu de réformes. Il n'y a pas de révolution Meloni, c'est une politique réformiste. Je parlais du combat culturel. Une des réformes drapeaux, une des lois drapeaux, c'est la GPA décrétée délit universel. Juridiquement, ça ne veut pas dire grand-chose derrière, mais au moins, il y a ce signe qui a été envoyé, encore une fois, à cet électorat. Et il y a d'autres réformes drapeaux. Ça a commencé par un décret contre les rave parties. Mm-hmm. Pareil, juridiquement, ça n'a pas eu énormément d'implications. Elle a créé pas mal de délits en plus, notamment dans une loi sécurité adoptée définitivement cette année. On transforme en délit, par exemple, le fait de bloquer une rue ou une voie ferrée avec son corps, sont visés les manifestants écolos. Et puis, je dirais qu'il y a un climat tendu avec les juges systématiquement accusés d'être politisés. On en revient aux années Berlusconi. Il y a une réforme de la magistrature qui se prépare, dont l'un des objectifs est d'affaiblir un peu ce corps puissant qu'est la magistrature en Italie.
Jean-Pierre Darnist, s'agissant de l'immigration, Giorgia Meloni, à la fois, on se souvient très bien, parce que c'était au démarrage, a ouvert les frontières, démographie oblige, à une immigration choisie. Depuis, elle a fait baisser l'immigration illégale avec sa politique de retour. Moi, je voudrais savoir, et au fond, ça revient à ce que je vous demandais sur l'économie au début de cette conversation, est-ce que nous sommes revenus à tout simplement des arrivées moins massives que dans la période 2015-2020, ou est-ce qu'il y a là encore une patte Meloni s'agissant de l'immigration?
Alors, il y a une intelligence politique, puisqu'elle a aussi réformé cette idée des arrivées dans les ports, c'est-à-dire qu'elle a réparti les arrivées des bateaux des ONG sur différents ports, ce qui les rend beaucoup moins visibles médiatiquement. Ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ces débarquements massifs en Sicile, mais tout ça est le long de la péninsule et ça se passe, disons, de manière beaucoup plus discrète. Et donc après, c'est absorbé, c'est l'effet médiatique est important. Et puis, il y a cet élément contradictoire sur l'immigration. Il y a bien sûr le fameux camp, on va dire, créé en Albanie, où d'ailleurs il n'y a jamais eu personne, enfin ou presque, qui a été aussi condamné par la justice et qui est donc une politique que j'appelle moi déclaratoire. Mm-hmm. Et en même temps, il y a l'adoption d'un décret flux qui prévoit pour les prochaines années 500 000 régularisations. C'est essentiellement des régularisations sans papier, au nom du besoin démographique et du besoin de main-d'œuvre. Mm-hmm. Donc vous voyez, ça c'est très typique, mais on avait exactement les mêmes politiques pendant les 9 années dans lesquelles, Silvio Berlusconi gérer une coalition de droite. Mmh. C'est pas nouveau, on avait déjà vu ça en 2002.
Il y a, Jean-Pierre Darnist, il y a eu une époque où l'Italie regardait nos institutions pour comparer notre stabilité, c'était au moment où elle allait très mal en termes de stabilité justement, et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Est-ce que vous diriez que l'Italie est mieux équipée que nous, au fond, pour affronter les crises politiques? Est-ce que c'est aussi ça que nous renvoie l'image de Meloni?
Ça dépend peut-être des moments. En 2018, il y a eu un vrai blocage politique. On se demandait ce que l'Italie allait devenir. Et ça avait donné d'ailleurs un gouvernement populiste 5 étoiles Lega qui avait été assez particulier. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On a une Italie qui est une espèce de 4e république très parlementaire et qui a l'habitude de créer des coalitions avec une loi électorale différente et avec, disons, une constitution qui fait en sorte que un seul homme ou une seule femme ne peut pas exercer seul le pouvoir. Mmh. C'est un modèle assez différent de la 5e République française. Dans le cas actuel, il y a une stabilité italienne et il y a un rôle, par exemple, de garant du président de la République italienne qui est très appréciable. Le contexte français semble beaucoup plus problématique.
Et une culture des coalitions en Italie qui n'existe pas en France.
Rapidement, l'un ou l'autre d'ailleurs, je ne veux pas me tromper, renouvelable en 2027, si je ne m'abuse. Elle y va et elle y va tranquillement ou pas? Vous avez 10 secondes, je vous le dis.
En Italie, on n'est jamais sûr de rien.
Mais l'objectif, c'est de durer au pouvoir.
Bon, eh ben écoutez, bravo. Bravo pour les 10 secondes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est le monde qui tourne un peu autour de nous, justement, ce soir. C'est le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
La condamnation de Nicolas Sarkozy, vue par la presse étrangère.
Et c'est juste après ça.
You
Les Anglais de Brighton dans la playlist de France Inter. Le titre, c'est Mange tout, ce qui est un peu déstabilisant. Le monde à l'endroit, Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Frédéric, la condamnation de Nicolas Sarkozy a donc interpellé rapidement d'ailleurs beaucoup de médias étrangers.
Oui, un moment historique, estime le Süddeutsche Zeitung en Allemagne. Un ancien président français bientôt incarcéré, condamnation à de la prison ferme. Voilà qui stupéfie aussi le New York Times, le quotidien américain, parle d'une peine sévère à laquelle peu de gens s'attendaient, sans précédent dans l'histoire française moderne. Ce jugement est peut-être le coup le plus sévère porté à l'héritage de Nicolas Sarkozy, écrit le correspondant à Paris du Journal. Il relève les mots ce matin de la juge. Elle reproche à l'ancien président un acte extrêmement grave de nature à saper la confiance des citoyens envers ceux qui les représentent. Le Guardian, au Royaume-Uni, met en exergue les mots de Nicolas Sarkozy qui a fait appel. « Je dormirai en prison, mais la tête haute, je suis innocent. » Le média suisse Blick, lui, s'attarde sur le chef d'accusation retenu par le tribunal, association de malfaiteurs. Malfaiteur, c'est le mot qui fait mal, relève notre confrère Richard Verly. Il égrène les synonymes dans le langage courant, délinquant, criminel, truand. Blick rappelle aussi que Nicolas Sarkozy a été lavé des accusations de corruption. Nicolas Sarkozy écrit le média suisse, coupable mais pas corrompu.
On entend donc une forme de stupeur dans la presse étrangère après cette condamnation de Nicolas Sarkozy, mais d'autres titres de presse sont moins étonnés de ce jugement.
À l'image d'El Mundo en Espagne qui rappelle que c'est la troisième fois que Nicolas Sarkozy est condamné. Le quotidien de centre-droit note aussi que l'ancien président s'était déjà vu retirer la Légion d'honneur, je cite, comme le maréchal Pétain. La Libre Belgique, elle, a choisi de s'arrêter sur un autre épisode, Fabienne, l'attitude de Carla Bruni à la sortie de la salle d'audience tout à l'heure. Très remontée, l'ex-première dame a arraché la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol, relate le journal belge. Il décrit une Carla Bruni, la mine hautaine qui s'en prend aux médias, qui a révélé toute l'affaire.
Et d'ailleurs, Carla Bruni, qui est aussi à la une du Sun, le tabloïd britannique.
Oui, la une du site internet, à côté de son époux, avec ce titre violent, implacable, Sarkozy caged, Sarkozy en cage au Brésil. Autre angle de vue, la Gazzetta do Povo recense les responsables politiques qui ont été condamnés en justice. Nicolas Sarkozy y figure aux côtés de Donald Trump et de Silvio Berlusconi. Même condamnés, ils ont gardé une influence politique, se réjouit ce journal conservateur, journal soutien de Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien, lui-même condamné. Entre les lignes, on lit donc l'espoir pour la suite. Justement, quel avenir pour Nicolas Sarkozy? La Repubblica note qu'il continue d'être consulté par des dirigeants français, Emmanuel Macron ou le Premier ministre Sébastien Lecornu, et ce, malgré le poids des peines judiciaires, s'étonne le journal italien.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. On y retourne évidemment à 19h et puis après avec vous dans le téléphone sonne à partir de 19h20.
Non.
Le reportage d'un jour dans le monde est en Inde ce soir, qui s'est vu infliger par Donald Trump un tarif douanier à 50% parce que l'Inde, aux yeux du président américain, est trop protectionniste et finance la guerre en Ukraine en achetant du pétrole russe. 50% c'est bien supérieur aux voisins d'Asie et les conséquences pour l'Inde sont lourdes. C'est dans le sud que nous allons, dans une ville qu'on appelle la capitale du textile indien. 10 000 petites usines textiles qui emploient au moins 600 000 ouvriers. Toute la métropole dépend du textile, dont une bonne partie part à l'export vers les États-Unis. Et le reste, c'est Combastin qui raconte.
Vipier Export est installé dans un immeuble coloré d'Inde du Sud, comme Tirupur en compte des milliers. Sur ces trois étages, quelques ouvriers s'affairent encore à la découpe et à la couture.
50% de taxes, c'est terrible pour Tirupur. Depuis quelques semaines, nous n'avons plus aucune commande car 80% de nos clients venaient des États-Unis. Ils ont annulé leur commande. Moi, je fais 10% de marge. Il m'est impossible de compenser.
Ponusami, propriétaire de cet atelier textile, s'inquiète. Les barrières douanières de Donald Trump sont un coup de massue pour son entreprise.
Il y a 60 ouvriers ici. Je les laisse terminer la dernière commande textile, même si je ne pourrais sans doute pas la vendre. Je ne veux pas les licencier, mais d'ici quelques semaines, je n'aurai pas d'autre choix.
Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 8 milliards d'euros à l'export, Tirupur est une réussite industrielle, entamée durant la libéralisation économique en Inde. Si les portes du marché américain se ferment définitivement, la ville saura rebondir, assure le président de la Tirupur Export Association.
Sur 5 milliards d'euros d'exportation dans les usines de Tirupur, 1,6 milliard vont aux États-Unis en moyenne, soit un tiers. Pour l'instant, seuls 5% des emplois sont menacés. Nous allons nous tourner vers de nouveaux marchés, le Golfe, l'Australie, l'Europe. Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est l'affaire de 6 mois.
Alors que les échanges continuent entre Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi, certains espèrent un accord commercial plus arrangeant. Au local du Parti communiste indien, bien implanté dans cette ville ouvrière, l'inquiétude est plus marquée.
30% du marché qui s'évapore, cela ne va pas être compensé du jour au lendemain. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois menacés à Tirupur. Les patrons disent qu'il y a peu de licenciements, mais c'est parce qu'ils renvoient les migrants pauvres venus du Nord, qui travaillent au noir et ne sont pas comptabilisés.
Les ouvriers peu éduqués sont peu enclins à parler alors que leur contremaître n'est pas loin. Une couturière de 29 ans.
Je ne sais pas ce qui se passe avec les États-Unis, mais le travail a ralenti pour nous tous, avec des semaines plus courtes, et nos salaires diminuent aussi. Donc on est tous inquiets.
C'est l'Union européenne qui est dans tous les esprits après la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Inde et le Royaume-Uni. Le patron d'Esti Export, un des plus grands exportateurs de Tirupur, se veut confiant.
Si un accord de libre-échange est signé avec l'Union européenne, on doublera nos exportations là-bas et ça compensera les risques liés à nos relations pas faciles avec les États-Unis. Notre gouvernement a déclaré que les discussions étaient bien avancées.
Reste le risque que ces deux négociations échouent. Tirupur compenserait alors difficilement avec le marché intérieur indien, immense mais bien moins riche.
Combastin pour le reportage en Inde, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est Guillaume Auda qui passe sous les radars pour dénicher l'actualité internationale.
Voilà, et c'est comme ça, sous les radars, qu'un maître espion algérien emprisonné dans son pays s'est enfui, panique, paranoïa en Algérie.
Et Stéphane Jourdain, la tech, la première, Stéphane.
Faut-il s'inquiéter de l'arrivée des lunettes connectées avec écran intégré pour notre vivre ensemble?
La réponse est oui. A tout de suite les amis, nous faisons une petite escale en Chine avec le choix audacieux de Chewbacca ce soir. Li Jiangyan, c'est pas la première fois qu'on l'entend, cette chanteuse des années 50, et la chanson s'appelle Plum Blossom.
Ping
Elle s'appelle Li Qiannian et sa chanson s'appelle Plum Blossom sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Allez, sous les radars, c'est Guillaume Audard. Voici une histoire qui secoue l'Algérie depuis une semaine, Guillaume. L'étrange disparition d'un ancien patron du renseignement. Il était détenu en résidence surveillée et il s'est fait la malle.
Un vrai thriller politico-militaire et tout un pays sur les dents, sur les nerfs, comme il ne l'avait plus jamais été depuis la fin des années 1990 et la décennie noire. Barrages policiers, blocage des rues, fouilles des véhicules ont rythmé toute la semaine le quotidien des habitants d'Alger sur fond de nervosité, mais surtout de paranoïa du côté de la présidence Tebboune, où l'on aurait été jusqu'à envisager, attention c'est du conditionnel, une tentative de coup d'État. Ce qui a alimenté les spéculations, c'est le CV du fugitif, un militaire de haut rang, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser El Djen, dit l'insaisissable, le rusé. C'est un maître espion détenu sans raison officielle, mais qui a pu fuir grâce à un énorme réseau de complicité. C'est cela qui a effrayé. Reste que la fièvre est quelque peu retombée. Cet après-midi, on vient de l'apprendre d'après un média espagnol, El Confidencial, Nasser El Djen a trouvé refuge dans la région d'Alicante, sur la Costa Blanca. Quelque chose me dit que cette histoire n'est pas finie.
35e Tokyo Game Show. Tout le Japon, Guillaume, se tourne vers sa capitale où s'ouvre ce jeudi et jusqu'à la fin du week-end le Tokyo Game Show.
Et c'est la grand-messe internationale du jeu vidéo. Comme tout le monde, vous êtes une fan, Fabienne, de Mario, donc forcément vous rêvez d'y aller.
Car j'ai été jeune.
Vous avez été jeune, on est tous les adultes ont le même âge. 46 pays, 1100 exposants et les mastodontes du secteur Nintendo, Capcom, Sega, Rockstar Games et l'éditeur de GTA V pour les connaisseurs. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus, prêts à découvrir les dernières nouveautés. Mais le Tokyo Game Show, c'est surtout le rendez-vous des professionnels. Et pour le Japon, l'occasion d'afficher sa stratégie pour les années à venir et mettre le paquet sur l'industrie du cool. C'est comme cela que ça a été officiellement nommé. Mario Bros et consorts, c'est cool parce que ça rapporte gros, 30 milliards de dollars cette année. La dernière console Nintendo fait un carton. Et c'est tout le secteur, en réalité, du jeu vidéo japonais qui en profite. Deux défis à relever. La concurrence chinoise et le marché intérieur qui vieillit à grande vitesse et qui va abandonner la manette. Un objectif quand même, 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an d'ici à 2033. Autant que l'électronique grand public, Sony et tout ça, le jeu vidéo, je vous l'ai dit, c'est cool.
They give me friendship, respect. They give me a reason to keep on moving any given day.
Voilà la belle histoire de ce soir, Guillaume. C'est celle d'un papy au Canada qui a ému le monde entier avec un simple message envoyé à ses coéquipiers avant une rencontre décisive.
Voilà, un match de softball, c'est une sorte de baseball, mais light, avec mais son championnat, soft. Ses équipes et Nelson Bradbury. 80 ans, qu'on vient d'entendre. Ils m'ont offert de l'amitié, du respect et surtout l'envie de continuer à bouger, nous dit cet homme. Il joue dans une ligue d'adultes, c'est le plus vieux de son équipe et de très loin. On est à la veille d'un gros match. Il écrit un texto en pleine nuit à sa team. Merci de me traiter comme un égal, pas comme un vieux croulant. Vous êtes ma raison de me lever le matin. Et là, vous avez l'épouse d'un des coéquipiers en question. Elle voit le message envoyé. Elle est hyper émue et magie de l'époque. Elle le reproduit sur TikTok. Post viralissime en moins de temps qu'il ne faut pour claquer des doigts. Nelson Bradbury devient une star des réseaux. Il n'y a pas d'âge pour se sentir porté par l'amitié, le jeu et la joie de partager une fable universelle.
Eh bien, dites donc, vous êtes bien chafouin vous aujourd'hui, Guillaume Audin. Merci beaucoup. Allez, à lundi.
À lundi.
Le jeudi, c'est Stéphane Jourdain, le maître de l'IA et de notre futur dystopique. La tech la première.
France Inter. Le 18/20.
Et Stéphane, vous nous parlez ce soir de lunettes connectées, une nouvelle génération de lunettes avec écran intégré qui est sur le point de sortir des usines. Et vous nous dites que ça va changer notre rapport au monde.
Oui, en la matière, deux événements mondiaux ont marqué la semaine dernière. Le premier, la présentation par Mark Zuckerberg des nouvelles Ray-Ban Meta avec écran intégré dans les verres. L'intérêt, lire vos WhatsApp en toute discrétion, par exemple. En vente, 800 $ le 30 septembre aux États-Unis, l'année prochaine en Europe. Le deuxième, c'est que la semaine dernière, un invité du téléphone sonne s'est pointé avec des Ray-Ban Meta sur le nez, sans écran celle-là. C'est une première pour le 18/20 de France Inter et la raison de cette chronique, notre rédacteur en chef ne parle que de ça.
Il faut dire que les choses s'accélèrent en matière de lunettes connectées.
Oui, ça fait 10 ans que ce genre...
perdus.
Ça fait 10 ans que ce genre de lunettes existe. 2 millions de Ray-Ban Meta vendus dans le monde quand même. Mais jusqu'à maintenant, elles servaient basiquement, si je puis dire, à filmer des images ou à écouter de la musique, pas à lire des vidéos ou des messages WhatsApp sur un écran projeté dans les verres. La nouvelle génération de lunettes intègre ces fonctions et elles arrivent dans les boutiques. Celles du chinois TCL sont déjà sorties. Les Ray-Ban Meta, c'est pour la semaine prochaine. Et celles de Rokid ou de Google, c'est pour bientôt.
Alors, ces lunettes, Stéphane, des journalistes ont pu les tester en avant-première.
Oui, premier cobaye, Nicolas Lelouch de Numérama. Il a testé les Ray-Ban Meta Display. Verdict.
En fait, quand on porte les lunettes, on voit uniquement avec son œil droit un écran transparent apparaître au milieu de sa vision. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir ses notifications, des applications, on va pouvoir répondre à un message. Ça donne un aperçu du futur où, au lieu d'avoir des écrans dans la main comme un téléphone, comme une montre connectée, bah, le numérique se superposerait directement à la vision.
Deuxième cobaye, Omar Belkab, du site web tech Frandroid. Il a testé les lunettes Google et leur fonction Google Maps.
On a une toute petite zone d'affichage dans le coin de l'œil, de petites informations qu'on vient picorer en fait d'un coup d'œil. Et du coup, sur Google Maps, ben, c'était particulièrement bien fait parce qu'avec juste des petites instructions courtes, on peut suivre un chemin, typiquement dans 50 mètres, prendre à droite sur telle rue.
Troisième cobaye, Damien Licata Caruso du Parisien. Il a testé la traduction des lunettes Rokid. Une personne lui parlait en chinois et le propos lui était traduit en texte, en français, dans l'écran.
C'est plutôt efficace. La traduction apparaissait mot par mot devant mes yeux dans une petite lumière verte assez discrète, mais assez performante. Je trouvais que c'était assez fluide pour le coup.
Damien a aussi testé les lunettes du fabricant de télévision TCL, lunettes qui ont vocation à se substituer à un écran.
On peut regarder une vidéo de 3 minutes sans être perturbé par l'écran. Je pense que l'usage, ça peut être essentiellement de faire dans les transports ou dans l'avion, plutôt à ce genre public.
Alors, question pour un ami, est-ce qu'on peut imaginer au cours d'une réunion un peu ennuyeuse de regarder une série Netflix sans se faire griller par tout le monde ?
Ce sont quand même des modèles avec des grosses lunettes, des gros verres. Pour l'instant, c'est pas très discret. Donc, on peut regarder, mais je pense que nos interlocuteurs et les gens autour de nous capteraient facilement qu'on est déjà parti dans un autre monde virtuel.
Donc, on l'entend, ça a l'air convaincant, non, Stéphane, ces lunettes ? Est-ce qu'elles vont remplacer le smartphone ?
Alors, c'est la grande question qui agite la tech. Les smartphones existent depuis 20 ans et tout le monde veut jouer le coup d'après. Il y a eu le AI pin qu'on accroche à son vêtement, le petit boîtier Rabbit R1 dopé à l'IA qu'on pose sur la table, tous les deux morts au bout de quelques mois.
Ah bah je me disais bien, je ne les ai pas vus venir.
Ouais, il y a une petite hype dans la Silicon Valley. On sait qu'OpenAI a embauché le designer de l'iPhone pour travailler sur un assistant IA qui pourrait être, selon les dernières rumeurs, des lunettes connectées. Alors, ces lunettes vont-elles chasser nos bons vieux smartphones ? La réponse d'Omar Belkab.
Beaucoup d'applications déjà existantes sur nos smartphones vont facilement pouvoir être compatibles avec les lunettes de Google. Et en plus de ça, on a donc Gemini, l'assistant IA avec lequel on peut interagir très facilement pour lui demander tout et n'importe quoi. Donc, je pense vraiment qu'il y a un monde pas si lointain où les lunettes peuvent en effet faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de sortir le téléphone de la poche.
La question, Stéphane, c'est est-ce qu'on a envie d'un tel monde ?
Un monde où on ne sait jamais si la personne avec qui on parle nous écoute ou si, morte d'ennui, elle lit discrètement ses WhatsApp. Faut-il s'en inquiéter ? Oui, répond le journaliste du Parisien.
Je pense que ça va aussi ouais, peut-être encore plus couper les gens du monde réel. On le voit très bien déjà avec le pouvoir d'hypnotisation des smartphones. Et si on rapproche l'écran de la rétine des gens, on les coupe encore plus du monde réel.
On se coupe du monde réel, même Numérama est inquiet.
Ce qui me dérange avec ce produit, c'est qu'on ne sait pas quand quelqu'un utilise l'écran. Ce n'est pas visible pour la personne à l'extérieur. Forcément, imaginez un monde où des gens se baladeraient avec des casques ou des lunettes de réalité augmentée et ne parleraient plus entre eux, ne se montreraient plus d'écran pour quand ils trouvent une vidéo drôle sur Internet et juste feraient tout de leur côté. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous donne envie.
Donc Stéphane, la fin de la civilisation, c'est pour le 30 septembre, la date de sortie des Ray-Ban.
On a posé la question à Elsa Godard, philosophe, psychanalyste, spécialiste de la sincérité à l'heure du numérique. Elle vient de publier « Le droit des gens virtuels, une éthique pour les générations futures ». Alors, est-ce la fin de la civilisation ?
Il y a un grand risque de modification du lien à l'autre. Il va y avoir une distanciation et je pense que cet objet devrait être pris beaucoup plus avec gravité. Quand on perd le contrôle, quand on ignore les conséquences réelles, on n'en a pas la maîtrise d'une innovation, il faut d'abord l'interdire avant de l'autoriser. Ce qui laisse le temps de penser ses limites. avant d'autoriser et de balancer dans le champ public pour qu'on devienne les cobayes, finalement, d'une innovation, ce qu'il faut trouver, ce sont des limites à nos usages. On l'a vu récemment avec TikTok, le problème d'une éthique qui arrive après coup, après que les usages soient là, c'est qu'on arrive à une réglementation qui est un peu aberrante et surtout qui n'est pas très crédible entre j'interdis ou j'autorise.
TikTok et Meta, même combat.
Moi, je suis myope et astigmate, ça se passe comment ?
Eh ben, du coup, ben,
eh ben, du coup voilà.
Vous aurez les lunettes connectées.
Merci Stéphane Jourdain, à jeudi prochain.